Vous avez dit cholestérol? Molécule essentielle, le cholestérol est depuis des décennies, et encore aujourd'hui, diabolisé. Pourtant, sans cholestérol, pas d'hormones indispensables à l'organisme, comme les hormones stéroïdiennes, cortisol entre autres, et sexuelles, estrogène, progestérone et testostérone, ainsi que le cholécalciférol, autrement dit la synthèse de la précieuse vitamine D3. Sans cholestérol, pas non plus de perméabilité des membranes, autrement dit l'enveloppe, de nos cellules, dont celle de notre système nerveux, pour bien fonctionner, ni de synthèse des selles biliaires, pour digérer correctement les graisses. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le cholestérol. Il est courant d'entendre parler de bon versus mauvais cholestérol. Ce n'est pas tout à fait exact, ni aussi simple que ça. Le cholestérol est d'abord endogène, c'est-à-dire que le corps le fabrique par lui-même aux premières heures du jour, et pas qu'un peu, puisqu'il en synthétise entre 50 et jusqu'à 80%. C'est dire s'il en a besoin. L'alimentation se doit d'apporter le reste, soit environ 20 à 50%. Ce cholestérol dit alimentaire est principalement métabolisé par le foie et les intestins, à partir d'aliments riches en acides gras saturés à chaîne longue, mais aussi en sucre. Cholestérol endogène et alimentaire sont tous deux une sorte de graisse, de la famille des stérols. Attention, toutes les graisses ne sont pas du cholestérol. Celui-ci, pour se déplacer sans encombre dans la circulation sanguine, a besoin de transporteurs, qu'on appelle lipoprotéines. Ce sont des protéines capables d'acheminer un corps gras dans un milieu aqueux, fait d'eau. Il en existe principalement deux, le LDL et le HDL. Le premier a une densité faible. Imaginez, pour vous faire une idée, un cyclomoteur chargé de faire un long et périlleux trajet, soit de partir du foie pour aller vers toutes les cellules de l'organisme, afin de livrer leur commande de cholestérol. Ce sens-là du trajet est sujet à l'oxydation, et susceptible de générer en passant des réactions inflammatoires lorsque le cholestérol est en excès. Ces réactions sont à l'origine des plaques d'athérome ou bouchons, autrement dit, d'accidents cardiovasculaires. Ce n'est donc pas le cholestérol qui est mauvais, mais son transporteur, le fragile LDL, et seulement lorsqu'il reste bloqué dans les parois, après oxydation. Le HDL, à l'inverse, a plutôt le gabarit d'un char d'assaut. Il fait circuler le cholestérol en toute sécurité, cette fois, des cellules vers le foie. Ce dernier aura à synthétiser et utiliser le cholestérol dont il a besoin ou à le dégrader pour en éliminer le surplus par la bile ou les selles. Ce transporteur, peu vulnérable, est donc à l'abri de l'oxydation, donc de dégâts cardiovasculaires. L'organisme a besoin des deux pour pouvoir transporter le cholestérol dans les deux sens. Le foie fabrique donc entre 50 et 80% du cholestérol endogène et traite le reste apporté par l'alimentation. Aussi est-il indispensable de prendre soin de son foie, en évitant de le charger et en le soutenant, plus encore en saison froide. Sachez qu'une simple bouillotte à son endroit, au coucher, lui apporte une aide très appréciée. Suffisamment mais pas trop. Un apport en cholestérol d'origine alimentaire inhibe la synthèse du cholestérol d'origine endogène. En petite quantité le matin est bienvenue, en grande quantité en fin de journée ne l'est pas. Où le trouver? Le foie métabolisera sous forme de cholestérol un conséquent ou régulier apport en sucre simple, provenant de produits ultra transformés, raffinés ou encore d'alcool blanc et de bière, bien plus riche en sucre qu'on ne le pense. Le taux global de cholestérol augmente alors, avec le risque de basculer vers un excès de mauvais cholestérol sanguin, alias son transporteur fragile et casse-gueule, le LDL. Les ingrédients riches en sucre associés à d'autres qui le sont en graisse trans ou saturées, avérés pro-inflammatoires, sont une véritable usine à cholestérol alimentaire. Les acides gras trans peuvent être naturellement présents, en très petite quantité, dans les produits laitiers, la viande, le poisson ou encore les fruits secs. L'industrie agroalimentaire a artificiellement recours à un procédé qui modifie la structure des huiles liquides afin qu'elles soient moins sensibles à l'oxydation et solides à température ambiante. On les retrouve en quantité réglementée et mentionnée sur l'étiquette en tant que huile ou graisse partiellement hydrogénée ou hydrogénée, dans les margarines et autres aliments ultra transformés, tels que les viennoiseries, les biscuiteries, les pâtisseries, les pizzas, la friture, les sauces industrielles. Les recherches convergent pour alerter sur les conséquences, notamment cardiovasculaires, d'une trop grande consommation de produits contenant ces acides gras trans industriels. Les acides gras saturés à chaîne longue sont aussi riches en cholestérol. Il s'agit notamment des produits animaux, soit la viande, les abats, les laitages ou encore les œufs. Un faux procès. Les œufs de poule traînent encore et toujours cette réputation tenace comme quoi ils seraient mauvais pour notre santé cardiovasculaire. Nous en sommes pourtant aujourd'hui revenus et même parvenus au contraire, dès lors que l'on part d'un principe très simple, manger de tout en quantité raisonnable. En effet, la belle teneur en antioxydants des œufs de qualité leur permet de diminuer l'oxydation du LDL, le présumé mauvais cholestérol. Aussi, il est raisonnable de consommer 6 jusqu'à 8 œufs par semaine pour un adulte, exception faite pour qui est atteint d'hypercholestérolémie familiale. En outre, si vous optez pour des œufs au petit déjeuner, vous court-circuiterez la synthèse de cholestérol programmée aux premières heures du jour. Le soir, en revanche, les œufs sont inopportuns, puisqu'ils apportent du cholestérol à l'organisme, qui en a déjà suffisamment stocké à cette heure très avancée de la journée. Attention au régime pauvre en graisse. Notons qu'une alimentation pauvre en graisse, donc en partie en cholestérol, est néanmoins capable de bloquer quantité de mécanismes physiologiques et d'entraîner des dysfonctionnements, notamment hormonaux, que nous avons vus en préambule. Les taux sanguins de HDL comme de LDL se doivent d'être ni excessifs ni insuffisants. Certains régimes, méditerranéens ou végétariens notamment, riches en bonnes graisses, en polyphénol, autrement dit en antioxydants et en fibres, sont tout indiqués pour parvenir à cet équilibre. On dit d'eux qu'ils sont hypocholestérolémiants, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'élimination d'une partie du cholestérol via les selles grâce à l'action des fibres. Le HDL est notamment favorisé moyennant un bon équilibre oméga-3-6, soit un apport en acides gras monoinsaturés, huile d'olive par exemple, et un autre en acides gras polyinsaturés, contenus dans les graines et les noix. Quant au LDL, il est protégé de l'oxydation par les polyphénols des végétaux. Ainsi, les graisses en excès sont absorbées et les risques de maladies cardiovasculaires grandement abaissés. En définitive, le meilleur calcul concernant son taux de cholestérol n'est surtout pas d'avoir recours aux statines pour le faire baisser, voire l'inhiber, tout en continuant à manger gras et sucré sans chercher à rééquilibrer son alimentation. Cette prescription, en plus d'être un contresens, n'est pas sans risque. En effet, il est avéré aujourd'hui que les statines, une famille de médicaments la plus vendue au monde, entraînent des effets secondaires sévères. Il ne s'agit pas non plus de bannir le gras de son alimentation, mais d'adopter un régime alimentaire diversifié et de qualité, associé à une bonne hygiène de vie. Ainsi, il ne sera plus question de bon ni de mauvais cholestérol, ni d'ailleurs de bien d'autres problèmes de santé.